France Inter.
C'est la bande originale, soyez les bienvenus avec Leïla, comme on vous a dit, avec Emma, bonjour, Camille Lava, Bruno Pelchi, Jean-Guy Bassureau, Oldelaf, Daniel Morin.
Bonjour.
Et donc, nos invités Marie Gillin et Hélène Bénig.
France Inter, la bande originale. Leïla Kaddour et Nagui.
Bon, on va pas se mentir, hein, tout ça s'est fait un peu dans la précipitation
et
dans, et dans la course, mais on est là et à l'heure pour saluer ce très beau film d'Hélène Bénig. Bonjour Hélène, bonjour Marie, bienvenue.
Bonjour.
Bienvenue à toutes les deux. Ce film qui, alors, histoire vraie, fond d'histoire vraie quand même, même si c'est pas totalement un film autobiographique, c'est ça Hélène,
pas il faut le dire dès le début. Dès le départ, je n'ai pas vécu une séquence de ce film. Par contre, il est bien sûr inspiré de toutes les thématiques qui me constituent.
Bah, sans avoir vécu avec ce que vous avez vécu avec Vincent et les maisons de Vincent dont on va parler, évidemment, il n'y aurait pas eu ce film. Prenons le truc dans son sens inverse.
Ah non, je ne suis pas certaine.
Ah bon?
Ah oui.
Ça commence très mal, cette promo.
Pardon de vous contredire, Nagui.
Il est dit, non, mais on va en parler. On va en parler. Il est dit, Vincent, qui est d'ailleurs présent dans le film, d'ailleurs, dans le casting. Il est dit dans la bande-annonce, mon frère n'est pas handicapé, il est autiste. On va faire un tour de table, justement. C'est toujours un peu délicat de se dire, et si ça nous arrivait? Mais alors, moi, la question que j'aimerais vous poser, c'est parmi tous les sens que l'on a, les capacités que l'on a, est-ce que Emma Beaujean, il y a quelque chose dont tu as peur pour ta santé en disant, oh là, je ne voudrais pas qu'il m'arrive quoi?
Moi, je sais que toutes les femmes de ma vie, de ma famille, pardon, pas de ma vie aussi.
c'est une chanson.
Oui, j'allais juste commencer à faire une cover. Toutes les femmes de ma famille, avec le temps, perdent la vue. Et voilà. Et du coup, ça a un peu la flemme.
Ok,
voilà.
D'accord. Crainte de perdre la vue. Voilà. Camille Lavam, toi?
Je dirais Louis, parce que j'écoute de la musique vraiment tout le temps.
Trop fort.
Je serais très malheureuse de perdre l'audition.
D'accord. Bruno Pecky, est-ce qu'il y a un des sens que tu ne.
Ouais, la vue aussi.
Oui, enfin non, je parle au sens parce qu'on a parlé de la vue et de Louis, mais c'est vrai que ça peut être autre chose.
Ouais, la vue, clairement, c'est le truc où des fois j'ai un peu des angoisses par rapport à ça.
D'accord. Tanguy?
Alors moi, je suis clairement en train de perdre la vue, c'est-à-dire que sans lunettes, par exemple, je ne peux pas lire mon téléphone mobile. C'est pour ça que d'ailleurs que je ne l'ai pas et je suis assez vieux pour dire téléphone mobile. Allez, au revoir, merci.
La c'est la retraite. Moi, ce qui me fait très très peur, qui m'a toujours fait peur, au-delà des cancers et des choses qui surviennent comme ça, c'est la dépression.
Ah d'accord, ouais.
c'est la maladie qu'on
ne voit pas, entre guillemets.
Voilà, je trouve que c'est absolument terrible quand tu es confronté à des gens qui traversent une dépression, tu ne sais pas quoi faire, et je me dis, une fois que tu t'engouffres là-dedans, quand est-ce que tu t'en sors,
on en parlera un peu avec Connemara, le film pour lequel nous recevons Mélanie Thierry et Baptiste Bouillon.
Bastien,
j'ai dit Baptiste
c'est
bébé, j'avais les initiales, il m'en
manquait.
C'est
pas le bébé, non.
Daniel?
Moi, tout ce qui m'arrive en ce moment, j'aimerais bien que ça ne soit pas arrivé.
D'accord, très bien.
Parce que je t'entends, je te vois. C'est pas la fête. Et c'est pas la fête.
Mais tu me sens pas. Pas de l'odeur, non.
Ok, très bien.
Oldelaf?
Moi, c'est la vue. Malgré la musique, ça resterait la vue le plus angoissant.
D'accord. Okay.
Mais personne ne parle du goût. C'est terrible.
C'est ce qui nous est un peu arrivé pendant le Covid pour certains. En tout cas, on a perdu le goût et on a l'impression de manger du carton et se demander pourquoi manger. Moi, c'est la mobilité, c'est-à-dire de ne pas pouvoir bouger, d'être cloué.
T'arrives en retard au micro, tu te casses la gueule,
je n'aurais plus à le faire. Voyons le bon côté des choses. Est-ce que vous êtes posé des questions, Hélène, sur votre propre santé personnelle en disant je serais bien embêté si.
Ah oui, puis, alors moi j'ai envie en règle générale de transformer mes peurs parce que j'en ai beaucoup, je suis une très grande hypochondriaque. Et ce que Leïla vient de nommer, la dépression, c'est aussi ce qui constitue ce film. C'est que j'ai eu envie de faire un film autour d'un personnage qui éprouve des limites, donc de ne pas l'enfermer dans l'autisme, sachant qu'en fait on ne peut pas représenter l'autisme. Mais
oui, mais vous m'avez dit que le film n'était pas autobiographique, donc parlons du film dans quelques instants. Vous, personnellement?
Mais moi, personnellement, j'ai beaucoup de peur. Je suis née avec beaucoup de peur et j'ai tenté de les transformer en travaillant sur mes peurs. Mais voilà, la liste des mots les et des peurs que vous avez évoquées, je peux toutes les cocher.
En tout cas, elle a réussi à ne pas répondre à la question. Marie Gélin, vous aussi, bien un handicap qui vous fait peur? Personne ne souhaite avoir un handicap, enfin que vous aimeriez éviter?
Oui, mais c'est la déchéance physique, je trouve que c'est quand même...
D'être dépendant, finalement.
Dépendant, ouais. D'être dépendant, ouais.
Parce que alors, là, on en arrive au sujet du film. Pour moi, ce sont les aidants. C'est-à-dire, c'est tout l'écho que peut avoir. Et finalement, n'importe quelle maladie, handicap, ou en tout cas ce qui se passe dans une famille, c'est que c'est vrai qu'il y a un effet papillon, ou un effet domino, appelons ça comme on veut, mais il y a une résonance, en tout cas, sur les aidants. Est-ce que là, c'est le sujet...
Absolument.
J'ai trouvé le truc.
Tu peux mettre bravo. Yes. Non, même l'empereur.
Ok. Voici Hold the Love, fan de Marie-Gilles et de Belle Médic.
Ouais, je suis fan de Marie-Gilles, hein. Déjà plus fan que de Marie-Gilles 2. Au moins, vous avez explosé grâce à Jean-Jacques Goldman et sa chanson Lapin. C'est ma black number one. Je suis fan d'Hélène Médig en plus. Vous n'êtes pas une bourgeoise, vous êtes une Médigue du cru. Dès que vous jouez dans un film, j'ai l'impression d'être dans Urgence. C'est le côté film médical, je pense. Et vous êtes là pour une place pour Pierrot. Merci à tous. Franchement, et vous êtes là pour une place pour Pierrot. Franchement, il peut remplacer Tanguy Pastureau. Mais j'ai appris qu'il avait un souci d'autisme. Et puis j'ai appris que Pierrot aussi.
Qu'est-ce que tu fais?
J'ai des soucis dans mes affaires. J'ai des soucis dans mes amours. Je change souvent de caractère. Je vais à l'institut tous les jours et je vois le monde à l'envers. Je contrôle pas mon univers. Je passe ma vie le nez en l'air. J'ai pas trop le sens de l'humour. Pour faire mes lacets, je galère. J'ai réussi et j'en suis fier. Au fond, je n'ai qu'un seul regret. J'envie un peu les aspergères. J'aurais voulu être un autiste pour pouvoir comprendre Pierrot. Que le monde semble moins triste entre les guerres et Pascal Pro. J'aurais voulu être chroniqueur pour pouvoir rencontrer Nagui ou faire des jeux à prendre par cœur, gagner les 12 coups de midi. Je suis fan de Marie-Hélène et bravo pour ce personnage anti-héros. Et Pierrot, vous êtes nos invités, on vous fera pas le mal. Bienvenue à vous avec
la bande originale. Hold the Love.
Bravo, bravo, bravo. Je ne sais pas où il est, mais il est là bientôt. Tu seras où sur scène?
1er avril au Folies Bergère.
Très bien. Merci beaucoup. Avec ces jeux de mots, pardon pour les jeux de mots.
Oui, possiblement qu'il y en a eu quelques-uns.
Médigal et là-bas. T'as pas honte, Jean-Jacques Goldman?
J'accueille.
Ouais, c'est ça.
Marie-Gilles 2, évidemment.
Oui, ça, oui. On l'avait jamais faite, celle-là.
Non.
Marie-Gilles 2, très bien.
Peut-être une raison.
Très bien. Donc, Grégory Gadebois et Marie-Gilles 1 sont les héros de votre film Hélène Médig. Vous avez mis longtemps à l'écrire, ce film. Vous le portez depuis longtemps en vous, en tout cas?
Un an d'écriture, alors vraiment très précisément avec mon co-scénariste Stéphane Cabal. Alors on a écrit, c'est-à-dire que moi je suis pas du style à mettre sous le tapis pendant... On laisse reposer, c'est pas trop ma façon de faire, donc ça a été un an. Un an pour financer le film et faire le casting, et puis un an pour préparer, tourner, post-prod.
Ah ouais?
Voilà, 4 ans.
D'accord.
D'ailleurs, Camille est témoin, puisque j'écrivais mon film pendant qu'on jouait au théâtre, de la Michaudière.
Exactement.
Voilà. Une partenaire précieuse.
Vous ne vous êtes jamais posé la question d'interpréter le rôle joué par Marie?
Non, j'ai tout de suite eu envie d'une actrice.
Pour
être à la bonne distance.
Okay.
Et puis surtout être disponible voilà, pour la réalisation, j'ai fait un
mais
film.
Mais vous êtes quand même dans,
vous êtes dans le film. Oui, alors j'ai réduit.
Un caméo, on va dire, c'est quoi?
À chaque fois, je réduisais mon personnage pour me rendre disponible. C'était drôle, je me coupais au fur et à mesure. Mais je sais pas ce que ça veut dire en termes de place.
Ah bon, un bon psy pourra vous l'expliquer, vous inquiétez pas.
Mais voilà. En toute conscience, oui, j'ai laissé l'essentiel de ce personnage.
À Marie-Gillin, casting réussi, casting bouleversant, interprétation formidable de Marie-Gillin, de Grégory Gadebois, de Patrick Humil, Mathilde Labarthe, Vincent Elbaz, François-Vincent Telly, Marianne Bassler, Atmen Khelif, Vincent Winterhalter et Nicolas Briançon, qui est votre collègue dans un cabinet d'avocats, Marie-Gillin.
Son patron, même, non
ou même mentor, qui vous a même porté, voilà. Et on voit l'impact, la résonance qu'a donc d'un coup votre vie privée, la dévotion pour s'occuper de votre frère dans le film, de Pierrot, qui est médicalisé, qui est surmédicalisé. On augmente les doses, on est en train de l'assommer parce que finalement, d'un point de vue chimique, ça sera plus simple de le rendre totalement endormi, apathique, plutôt que de gérer ses émotions.
Ouais, c'est ça.
Oui, il n'est pas au bon endroit, il n'a pas le bon traitement. Il a, c'est pas pour rien qu'il s'appelle Pierrot. Pierrot, c'est un être qui a une forme de liberté, de poésie, et en tout cas, il n'est pas du tout bien encadré pour développer ses potentiels. Voilà, ce film raconte aussi que l'amour a ses limites. Qu'à un moment, quand on est seul et qu'on n'est pas porté par des infrastructures qui peuvent nous aider, on le voit en tournée province, c'est assez incroyable comme le public voit ce film comme un lien, il y a beaucoup de réconfort parce que ce sont souvent des familles qui se sentent isolées, qui se sentent un peu impuissantes. Donc voilà, Camille, elle a pas choisi d'être avocate par hasard puisqu'elle, depuis qu'elle est petite, elle est en colère. Et donc elle a un peu cette blessure de l'injustice qu'elle a besoin de réparer, elle a besoin de comprendre, elle a besoin de poser des actions, voilà. Et donc elle décide de faire un hold-up et de le sortir de ce foyer médicalisé.
Je l'appelle comme ça, moi.
Ouais, un hold-up.
Surtout par la.
Elle le sauve. C'est pas un kidnapping. Elle le sauve. Elle le déménage.
C'est le fait de tout passer par la fenêtre. C'est vraiment.
Symboliquement, ouais, c'est ça.
Moi, ça, j'aurais rêvé vivre cette séquence. C'est pour ça que je l'ai écrite.
Et d'avoir, on va finir par un truc autobiographique. et d'avoir en effet cet écho, ce tremblement de terre, ce séisme tant dans la vie professionnelle, dans la vie sentimentale, dans la vie privée, dans le regard des autres aussi, tout a un impact. Elle est divorcée, elle a sa fille en garde alternée, on imagine en tout cas, qu'il y a l'éducation de sa fille qui doit être là, et puis d'accueillir tonton à la maison, d'accueillir son frère, de s'en occuper, a aussi un impact sur le rapport avec sa propre fille, qui doit gérer ça, les inquiétudes de tout le monde, et y compris de Nicolas Briançon, donc qui joue votre boss ou votre mentor, en disant mais t'as pas la tête au boulot, quoi. T'es en train de péter un câble. Et t'aurais dû me le dire plus tôt pour que je t'aide aussi.
Oui, elle a pas su faire de la place à quelqu'un d'autre que son frère, parce que malgré. C'est un être extraordinaire, mais il prend de l'espace, il prend du temps aussi, ça demande du temps, de l'organisation. Donc sa fille adolescente est là pour lui rappeler un moment. Qu'elle aussi traverse une période difficile et que c'est un peu le moment où on a envie que nos parents soient pas près de nous, mais qu'ils soient pas trop loin.
C'est ça.
Et elle est pas vraiment là, quoi. Elle fonce tête baissée. Elle est un peu en quitte survie. Il n'y a pas d'autre solution. Je le ramène à la maison. Ça va bien se passer. Ça ne va pas durer. Elle est dans une forme de déni aussi.
Mais elle doit quand même faire des choix. C'est-à-dire le choix, en l'occurrence, de faire du pseudo-télétravail. Parce que j'ai l'impression que c'est quand même du pseudo-télétravail. même si le dossier peut-être dans la cheminée ou coincé où elle va le retrouver. Si elle travaille à la maison, ne serait-ce que la cuillère dans le pot de yaourt, ça peut finir par devenir un truc qui la rend dingue. C'est le supplice chinois, c'est-à-dire c'est vraiment ce bruit répété, régulier qui peut la rendre dingue. Donc tout devient un combat en permanence, Hélène.
Ouais, j'avais vraiment très envie, et c'est ce qui a motivé le film, de créer un personnage d'aidante comme ça, qui représente à la fois toutes les femmes et qui
et même tous les aidants
bien
aussi
sûr,
parce que une femme, mais
voilà, on est aidant et on fait pas tout bien. Voilà, c'est pas une héroïne parfaite. Alors évidemment, elle représente l'amour inconditionnel, mais au final, elle prend personne en compte quand elle est agie dans cette impulsion viscérale d'aller retirer son frère de cette institution sans évidemment identifier les conséquences.
Ouais, ce que l'on voit aussi, et il y a beaucoup d'aidants qui peuvent se reconnaître dans le personnage formidablement joué par Marie, c'est que ils s'occupent tellement de leur enfant, de leur frère, de leurs parents, ils sacrifient leur vie, ils sacrifient leur salaire, leur boulot aussi, parce que les aidants ne sont pas payés, il n'y a pas de statut reconnu en tant qu'aidant, et ils s'oublient eux-mêmes, jusqu'à s'oublier presque physiquement. Le clin d'œil est fait avec les cheveux attachés ou détachés, où sa féminité ne vient qu'après.
C'est très précieux, vous avez tout compris. Mais vraiment. Non, mais c'est très précieux, en fait, de pouvoir, grâce à ce personnage et son évolution, parce qu'au final, elle va accéder à sa nature profonde tout au long du film. Et à la fin du film, la résolution, c'est que c'est une place pour Camille. Et quand on est aidant, on n'a pas d'autre choix, en fait, que de se coltiner la réalité. Mais ce qui est imposé, c'est de se rencontrer. Parce qu'on ne peut pas prendre soin de l'autre quand on... On ne prend pas soin de soi d'abord, quand on n'écoute pas ses émotions, quand on ne dépose pas sa colère. C'est pas possible. Et en fait, c'est aussi ce que traite le film. Et quelle que soit, en fait, la forme d'aidance, enfin, je veux dire, là, il se trouve que c'est une personne fragile psychiquement qui atteint le TSA. Mais voilà, je voulais vraiment ouvrir. Je voulais que mon film, humblement, ait une dimension universelle.
Oui, il peut parler. Alors là, c'est l'autisme qui est au cœur du film. Mais on imagine que n'importe quelle forme d'handicap. Je pense à toutes les familles que je croise sur le Téléthon, là aussi, avec cette... Il n'y a pas d'échelle de Richter sur la maladie ou sur la gravité, mais quand on ne peut pas mettre un nom sur une maladie, quand on ne sait pas quoi faire ou comment faire, quand l'handicap est sur, justement, les problèmes de motricité, les problèmes par rapport à la société, là, en l'occurrence, il s'isole. Grégory Gadebois est absolument merveilleux, évidemment, comme tout le casting dans le film. Je crois qu'il ne dit pas un mot avant un quart d'heure, 20 minutes dans le film, mais justement, sans rien dire, on comprend tout l'isolement dans lequel il se met, et ça va plus loin que le simple casque anti-bruit qu'il met. Il est vraiment dans sa bulle, il est totalement isolé, et il s'en remet totalement à sa sœur, à vous qu'interprétez Camille. C'est-à-dire qu'il va l'écouter, il va dire oui d'une manière extrêmement sage. Il y a cette scène avec le tableau noir sur lequel vous allez écrire exactement ce qu'il doit faire à quel moment. On le voit dans la bande-annonce, c'est pour ça que j'en parle. Je ne dévoile pas ce que lui en fait après de ce tableau. Mais c'est une, ça devient une deuxième maman, finalement.
Oui, c'est un être qui est très ritualisé, et il a besoin, pour être rassuré dans son quotidien, que les choses soient claires. Donc c'est pour ça qu'elle a mis en place des outils comme un emploi du temps avec des petits post-it qu'on voit à un moment quand il se balade dans le métro. Bon, bah il a tout presque un cahier.
C'est pour ça que j'ai pris l'image d'un enfant, comme on fait avec un enfant qui va pour la première fois prendre le métro seul, dont on a peur s'il sort sur le balcon, parce que c'est ce qui se passe aussi. On le voit, il sort sur le balcon, ça aussi. Dans la bande-annonce, donc je ne spoil rien, ou même sur un balcon, elle se dit « Ouais, non, tu ne vas pas t'envoler comme un oiseau. Hein. »
Alors, Grégory disait quelque chose dans une des interviews, et je trouvais que c'était assez juste. Il disait aussi que finalement, parce que cette dépendance, elle se fait quand même à deux. En fait, pour lui, c'est assez confortable. Il est pris en charge, on s'occupe de lui, et il n'a pas envie non plus de bouger de ce système quand il est chez sa sœur Camille et sa nièce Emma. Ce film, c'est aussi comment lui va apprendre à...
Son autonomie
à devenir plus autonome, et puis d'une certaine façon à grandir. Et je trouve ça assez beau, parce que, enfin, voire même très beau, c'est qu'on voit que tous les deux vont apprendre aussi à couper ce fameux cordon ombilical qui les relie de façon très fusionnelle par la force des choses, et de chacun pouvoir... avoir un lien qui est peut-être plus... où chacun a trouvé sa place, en fait.
Et à propos de place, justement, il faut la trouver, cette place. Hein. C'est le titre, Une place pour Pierrot, c'est la place qu'il prend dans la vie, c'est la place qu'il prend dans vos sentiments, dans votre vie professionnelle, dans votre vie personnelle, et puis c'est la place qu'il faut lui trouver, place dans la société, place dans un établissement dédié. On parlera des maisons de Vincent, et cette maison, d'ailleurs, qui est représentée par... qui est symbolisée traumatisé par l'accueil de François-Vincent Tellier, avec sa formidable barbe de Père Noël qui s'est faite en maraîcher, et en non seulement en trouvant une place, en trouvant une occupation, en trouvant
lui
un rôle à jouer.
Qui a bossé, lui aussi.
Lui aussi. Alors,
c'est ça qui est important pour moi. C'est, ce décor, il est vraiment onirique, même s'il y a un parallèle avec, on va dire, les valeurs de mon association. C'est que les deux personnes, François Vincentelli et Marianne Bassler, sont deux personnes au parcours brisé, eux-mêmes fragiles, et qui tentent de retrouver du sens en créant ce projet, en accompagnant des personnes différentes et en se reliant à la nature.
Avec une jolie gaffette au sein du couple quand il dit j'aime les gens différents.
Je me sens bien avec les personnes différentes.
Avec les personnes différentes. Et puis là, d'un coup, il se rend compte qu'elle pourrait le prendre pour elle. Je ne sais pas si c'était écrit ou improvisé.
Ah oui, c'est totalement écrit comme ça.
Mais c'est mignon, c'est drôle et touchant.
Et en fait, j'aimais bien que ces deux personnages soient eux-mêmes fragiles. Lui sort d'un burn-out parce qu'au final, une place pour Pierrot, c'est une classe pour chacun de nous. Je pense que les personnes fragiles racontent chacun d'entre nous dans nos parcours de vie et qu'au final, on est tous un jour amenés à éprouver des limites.
C'est un film à la fois drôle, touchant, émouvant, bouleversant, très très bien interprété, donc bien dirigé, vous l'avez compris. Le film sortira ce mercredi 10 septembre. Marie Gillin et Hélène Méhic sont nos invités, mais d'abord, voici Bruno Pecky. Parce que Bruno... Vous n'auriez pas fait un film comme ça, vous.
Et voilà. Seulement et la deuxième fois de la saison que je fais ce format et je le regrette déjà, quoi.
Non,
mais je suis censé dire que j'aurais pas fait ça comme ça pour un film sur l'inclusion d'une personne autiste, quoi. Visiblement, le bizutage n'est pas terminé. Ah non, mais je suis mal à l'aise de parler d'un sujet sur lequel je connais rien. Je suis humoriste, pas ministre. Non, mais vous voulez que je dise quoi? Qu'à votre place, Hélène, j'aurais plutôt raconté l'histoire d'un mec qui commet un braquage avec son père et qui, pour échapper à la police, se fait passer pour autiste dans une colo.
Ah oui.
Oui, c'est pompé d'un petit truc en plus, mais vous savez, la clim qu'ils sont fait avec. Voilà. Bon, du coup, faut que je fasse diversion. Finir cette chronique sans me faire cancel. Bonjour Marie Gillin. Vous savez qu'on a déjà tourné ensemble avec Marie.
Ah bon?
Et ouais, moi aussi, j'ai une carrière d'acteur. Vous étiez pas au courant, mais
non.
J'en ai fait des projets. Allez-y, demandez-moi dans quoi j'ai tourné.
Dans quoi t'as tourné?
Et bah dans la série Daily Mineur aux côtés de Marie Gillin en 2023. Allez-y, continuez de me demander
encore,
dans quoi d'autre j'ai tourné.
Dans quoi d'autre?
Et bah c'est tout. Voilà, j'ai rien fait depuis. Enfin, j'ai rien fait depuis. J'avais déjà rien fait avant. Donc voilà. Bah heureusement que c'est pas moi l'invité de la bande originale. Sinon l'émission elle aurait la durée d'un audio sur WhatsApp, quoi. Non mais depuis j'ai fait des trucs quand même, j'ai intégré cette émission dans laquelle je me fous de la gueule des acteurs qui ont une meilleure carrière que moi. Voilà, ça va, car on se connaît avec Marie, je sais pas si je vous l'ai déjà dit qu'on a tourné ensemble.
Dans quoi?
Mais comme j'ai qu'un seul crédit en carrière, tu vois, ça va pas arriver souvent. À moins que vous invitiez ma sœur, on a tourné dans pas mal de vidéos de vacances en famille.
Oui, c'est bien.
Non, ce qui est rigolo, c'est que Marie et moi on a tourné ensemble dans une série policière dans laquelle vous jouez le rôle d'une juge et moi d'un ado arrogant confronté à la justice. En gros, dans la série, j'étais un petit con et vous me jugiez. Bon, bah, deux ans plus tard, on refait la même chose, mais cette fois en direct sur France Inter. Quoi. C'est génial. Allez, assez parlé de moi et de ma carrière d'acteur. Parlons de ma carrière d'humoriste. Non, je déconne, je dois encore tenir 1 minute 30. Parlons de votre film. Alors, c'est important de parler d'autisme, mais je vais pas faire de blagues dessus, par respect déjà. Puis aussi parce que je fais du stand-up. Hein, j'ai quand même beaucoup de collègues sur le spectre, ou pas loin, quoi. Enfin, je vais pas les citer, je veux pas les vexer. J'ai envie de continuer à faire les premières parties de Thomas Wiesel. C'est bon, il m'a autorisé à faire cette blague.
Ouais.
Enfin, je crois, j'ai appelé, mais il a pas répondu. Il n'a pas pris le téléphone, les contacts sociaux, tout ça. Et puis, je fais gaffe aussi parce que j'ai épuisé mon quota d'insensibilité envers les personnes autistes. J'ai honte de cette anecdote, mais je vous la partage, voilà, parce qu'on est entre nous, ça va pas sortir d'ici.
Ouais.
Alors, au début de mon adolescence, en fait, je fréquentais une fille avec qui ça se passait très bien. C'était du très sérieux, on parlait mariage et enfants, ça faisait au moins 3 semaines qu'on se connaissait, enfin, une belle histoire d'amour d'ado. Elle a commencé à moins m'écrire et à annuler nos rendez-vous, et je lui ai demandé pourquoi, et elle m'a dit, je t'en ai jamais parlé, mais je suis pas trop dispo, je dois m'occuper de mon frère qui est autiste. Alors évidemment, 10 ans après, j'aurais répondu, bah pas de problème, bravo pour ce que tu fais, courage, t'as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Mais à l'époque, du haut de mes 16 ans, j'ai répondu avec l'empathie et la maturité émotionnelle d'une huître, je lui ai dit, si tu veux plus me voir, pas la peine de t'inventer un frère autiste.
Ouch.
Mais la honte, quoi, la honte. Le lendemain, elle m'a juste envoyé une photo d'elle et son frère devant une entrée où était marqué centre d'accueil et de soutien en autisme et les deux me faisaient un doigt d'honneur. Voilà. Évidemment, je me sentais con, mais c'était trop tard pour faire demi-tour. Hein, donc j'ai écrit Kim prouve que c'est ton frère, je peux avoir un extrait de l'acte de naissance.
Non.
Alors, évidemment, j'ai pas fait ça, je me suis excusé. Donc au final, non, vous savez quoi? Moi, j'aurais fait le film comme ça, parce que c'est important de parler de différence et aussi des proches aidants qu'on oublie souvent. Alors je sais, c'est pas le principe de la chronique, mais je m'en fous, je fais comme je veux, c'est mon côté acteur prétentieux. Oui, parce que je suis aussi acteur. Okay. Je vous ai dit que j'avais déjà joué avec Marie Gillin.
Merci. Bruno Pecky sur scène.
Bien sûr, ce vendredi, Bruno, tu seras en Suisse à Renan.
À Renan, oui.
À Renan, le 12 septembre donc, et le 21 septembre à Genève pour un spectacle en faveur de l'association Stop Suicide, bon, avec plein d'humoristes qu'on adore. Oui. Emma Beaujean, Lisa Delmoitier, bravo. Alexandre Cominec, Coco ou encore justement Thomas Wiesel.
Exactement,
ouais. Ouais, bravo.
Tu vois que tu peux être généreux quand tu veux.
Tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien.
Elle revient souvent, cette chanson. Il parle sûrement peut-être d'amour, comme souvent dans les chansons Julien, sauf que ce n'est rien prend une autre dimension dans la BO du film. Je trouve ça très
vraiment,
touchant.
C'est un personnage dans le film, cette chanson.
Ouais, c'est vrai.
C'est la chanson de Pierrot, donc c'est la chanson thérapeutique. Et pour moi, c'était. Alors, je voulais à la fois une chanson qui rassemble l'inconscient collectif, qui ne connaît pas ce n'est rien. Et aussi parce que c'est une belle métaphore dont on traverse tous l'ombre et la lumière, c'est l'impermanence, tu le sais bien, tout passe, ce n'est rien. C'est un peu la phrase qu'on répète plusieurs fois par jour à une personne fragile.
Oui, mais des fois on minimise justement en disant ce n'est rien, alors que rien c'est déjà quelque chose et c'est beaucoup, ouais, c'est ça.
Tu le sais bien, tout passe. Ouais. Mais voilà, puis ce contraste aussi entre cette mélodie très enjouée qui donne envie de vivre et puis ces paroles au fond très très spirituelles, très profondes.
Avec une scène très touchante entre votre fille dans le film à la guitare et Grégory Gadebois qui chante ensemble cette chanson en la jouant à deux sur la guitare. Découvrez cette scène dans la BO du film. Il est super simple.
Hommage quand même. Ouais. J'ai choisi cette chanson et il est décédé, j'ai appris ce matin.
Ouais. Exactement, Rick Davis. Ouais. Oui, pardon, j'ai dit dans la BO du film, c'est dans votre BO, oui. dans ce que vous écoutiez. C'était un clin d'œil qu'on voulait faire, un hommage qu'on voulait faire à Rick Davis, l'un des membres fondateurs avec Roger Hodgson de Supertramp. On va justement évoquer les musiques. Moi, j'aimerais quand même, Marie Gillin, savoir à quel point dans la direction qu'Hélène vous donnait pour le film, vous aviez des inquiétudes sur les moments d'énervement, les moments de où on perd ses repères, justement. Est-ce qu'on est une bonne ou une mauvaise sœur quand on dit ça, hein ? Enfin, voilà. Est-ce que vous aviez l'inquiétude de son regard, sachant que ce film n'étant pas autobiographique, vous êtes quand même très très proche d'Hélène Médig dans le film.
Je me suis posé des questions quant à ces débordements, parce que c'est comme on le disait, c'est une femme qui est en charge mentale et qui est imparfaite, qui elle-même des fois éprouve des limites.
Pète un câble,
elle pète des plombs.
Elle est en colère.
Elle est en colère. Donc j'avais des questions par rapport à ce dosage. Comment le spectateur va recevoir voilà toutes ces failles. Et il a fallu, c'est arrivé. Immédiatement, on s'est fait toutes les deux une grande confiance. Et là, je m'en suis beaucoup remis à Hélène et à sa connaissance de l'intérieur.
Parce que les aidants, ils ont le droit, pardon, de craquer. Il faut aussi.
Mais moi, j'avais un peu.
Qu'ils le sachent.
Oui, j'avais un peu cette image, peut-être comme certaines personnes, que les aidants sont un peu des saints, qui vivent dans l'ombre, qui sont discrets, qui sont. On prend jamais des nouvelles des aidants. Enfin, c'est quelqu'un de malade, prend toute la place, et les aidants souvent souffrent aussi. Et une fois que la personne guérit, ben c'est eux qui tombent dans le trou. Donc c'est une exploration de rendez-vous émotionnel qui sont très fins et c'était une question de dosage. Donc on a vraiment.
Alors ce sont des saints, oui, parce qu'il y a une forme de dévotion.
Non, mais justement,
dans
ça c'était un peu l'image que j'avais, mais je me suis rendu compte.
Mais ce que je veux dire par là, c'est que on a tous peut-être en nous cette dévotion potentielle, parce que tant qu'on n'est pas confronté à cette situation, on ne sait pas comment on réagirait. Si l'un des nôtres avait besoin de nous H24, parce que c'est ça aussi qu'il faut préciser, c'est que c'est pas rendre visite, c'est pas s'occuper, c'est pas une concentration ou un focus matériel, c'est pas ni un chèque ni un don qui peut tout régler. Il y a le problème matériel, ça c'est indéniable, mais il y a surtout l'attention permanente H24 de s'inquiéter, parce que le premier danger c'est la société, mais c'est la personne elle-même qui risque de se mettre en danger.
Ouais, moi je tenais beaucoup. Marie est une immense actrice, mais elle a fait un travail.
Il paraît qu'elle a tourné avec Bruno Pecky, donc.
Extrêmement exigeant. En fait, c'est très difficile de mener ce personnage. D'ailleurs, Marie parfois avait peur des explosions, en pensant même que ça pourrait rendre le personnage antipathique. Et moi, je voulais assumer ça jusqu'au bout. Et faire confiance à la fois aux situations, aux personnages.
Pardon, mais parce que ça la rend normale, justement.
Absolument. Ouais. Exactement. Mais même mon producteur, des fois, me disait « Oula, ça va pas un peu loin ?» Non, laissez-moi faire.
Parce que je sais. Parce que ce film n'est pas autobiographique, mais je sais, ne nous cache pas.
Non, mais même, c'est ce que j'ai envie de traiter, c'est ce que j'ai envie de raconter. Mais ça demande à une actrice, en fait, de traverser une succession d'états à l'intérieur d'une même séquence. Mm. C'est des rendez-vous. Et en fait, tous mes acteurs ont travaillé comme ça. C'est vraiment une façon de travailler, que ce soit François, même Nicolas, qui avait deux séquences. Tout le monde a été obligé, en fait, de traverser.
Il fait bien le mec pourri par moment, quand même. Mm.
Ouais, mais justement, parce qu'il est très malin, ben et qu'on sent l'humaniste, justement, magnifique.
On l'embrasse bientôt au théâtre, d'ailleurs, avec Pierre Arditi. On en parlera dans cette émission. Grégory Gadebois, Marie Gillin, donc, à l'affiche du nouveau film d'Hélène Médigue, Une place pour Pierrot, ce mercredi au cinéma. Voici Camille, là-bas. Oui.
Bonjour tout le monde.
Salut Camille.
Les amis, comme chaque année, l'événement de la rentrée arrive à grands pas. C'est un peu le lot de consolation de la fin de l'été, celui qui réchauffe nos cœurs et guère nos esprits et nous réconcilie avec la fin des vacances. Oui, vous l'aurez compris, je parle bien de mon anniversaire. Comme vous le savez, il arrive dans 3 jours et je ne peux donc imaginer la quantité de groupes WhatsApp et de notifications qui circulent actuellement à mon sujet. Ne serait-ce qu'au sein de l'équipe. Fête surprise Camille, vidéo montage à Nif Camille, compilation meilleure chronique de Camille, cagnotte canot Camille, Oldelaf a quitté le groupe. Alors... Du fond du cœur, merci. C'est très gentil à vous, mais écoutez, je vais vous soulager, c'est pas la peine, j'aime pas mon anniversaire. Voilà, donc arrêtez tout et recentrez-vous sur vos objectifs de vacances, de rentrée, et vos enfants. J'aime pas fêter mon anniversaire, je vois pas ce qu'il y a de festif en fait. Ça va, c'est juste une date dans un calendrier, pas de quoi y consacrer toute une journée ou toute une chronique. Et c'est même pas la question du chiffre, de vouloir dissimuler mon âge, non, après tout, l'âge n'est qu'un chiffre, enfin, 3 dans le cas de Daniel, mais... Non, c'est que ce concept de se célébrer et d'attendre des autres qui nous célèbrent toute une journée, c'est juste un égo trip, mais total, quoi. Et moi, je suis pas dans l'égo. Franchement, j'ai pas besoin de ça. Alors vous me direz, mais Camille, tu es comédienne. Oui, bien sûr, même si je préfère le terme d'actrice, que je trouve un petit peu moins limitant. Et une comédienne de grand talent, qui plus est. Oui, je vous remercie, mais enfin, c'est pas à moi de le dire. Quoi, tu es quand même au casting de 2 films qui sortent ce mois-ci.
Ah bon?
Oui, sur Amazon Prime et Netflix. Oui, c'est vraiment. Enfin, je suis loin d'être la seule à avoir une rentrée chargée. Il y a aussi Margot Robbie, Brad Pitt et Zelensky. Non, mais t'as quand même donné la réplique à Omar Sy. Oui, exact. Oui, c'est vrai que c'était une expérience formidable de tourner avec quelqu'un dont on apprend tellement en si peu de temps. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il m'a dit. Non, mais Camille, quand je dis la réplique, je parle littéralement, car tu n'en avais qu'une. Eh oh, c'est mon anniversaire, oui ou merde? Bon. Et d'ailleurs, il n'y a pas que le mien. Bruno aussi fait son anniversaire bientôt. Et je suis sûre que personne n'a pensé à lui demander ce qu'il voulait comme tapis d'éveil. D'ailleurs, pardonnez-moi, mais j'ouvre ici une parenthèse rapide. On est d'accord que ça veut rien dire, les anniversaires pour bébé. Enfin, c'est quand même fou de dépenser autant d'argent pour les personnes qui s'en souviendront le moins.
C'est vrai.
Comme le dit souvent Tanguy, tu mets pas du GHB dans un côte rôti. Non mais, sérieux, vous avez vu les anniversaires d'un an aujourd'hui? Il y a une DA, des cadeaux, des ballons, des intermittents. Enfin, ça fait quand même beaucoup pour quelqu'un qui se bave dessus et qui porte des couches. Même si non, ça ne nous empêchera pas d'être tous là au mois d'août prochain pour l'anniversaire de Daniel Morin. Bref, je vous le disais, je n'ai absolument pas peur de vieillir, moi. C'est pas ça. Car j'ai beau être actrice, je ne redoute pas le passage du temps. Car d'autres, avant moi, ont donné la recette, comme Jane Fonda, qui disait « Je ne veux pas qu'on m'enlève mes rides, car je ne veux pas ressembler à tout le monde. » Ou l'immense Anya Magnani, « Ne touchez pas à mes rides, j'ai mis si longtemps à les obtenir. » Ou encore Michel Drucker. Alors, dans un cul de poule, verser 12 centilitres de sang de jeune vierge, et 3 cuillères à soupe de larmes de licorne, et fouetter jusqu'à obtenir l'obtention d'une pâte lisse. Donc, tout ça pour dire, remballez vos confettis et vos cadeaux, prévoyez autre chose jeudi soir. Et si vous voulez vraiment me voir, vous inquiétez pas, il reste Amazon et Netflix.
Yeah, Camille là-bas. Il fêtera donc une trentaine et quelques jeudi.
30 moins 3, moins 4. Non, je
dirais... Non, 34.
Ouais, 34.
Ouais, mais ça va. Ah, c'est rien. C'est le tiers de Morin. Parlons donc de cette place pour Pierrot avec les acteurs. Et vous avez tenu, parmi les brillants, tous ces acteurs autour de Marie Gillin, Grégory Gadebois, il y a Patrick Mille, Mathilde Labarthe, Vincent Elbaz, François-Vincent Teddy, Marianne Bassler, Atmen Khelif, Vincent Huitalter, Nicolas Briançon. Et il y a de véritables...
Ce sont des artistes autistes.
artiste autiste, ouais, voilà, dont absolument. Votre frère. Vous voulez absolument qu'il soit dans le film.
Ah ouais, mais c'est un super acteur, mon frère.
Non, non, mais donc c'était...
Oui, oui, surtout que j'ai...
Puisque c'est pas autobiographique, à quel moment, quand
j'ai commencé à réaliser avec lui, en fait, en faisant un film avec lui, un moyen-métrage de fiction. Et autant je voulais écrire le rôle de Pierrot pour un acteur, pour ne pas enfermer ce personnage dans des problématiques d'autisme et de représentation qui ne servent à rien, et surtout permettre au spectateur d'y s'identifier. Mais j'avais très envie, dans ce décor de ferme, que des artistes qui sont tellement talentueux. Alors même si on a mis un dispositif un petit peu différent pour pouvoir dérouler ces séquences et puis leur permettre de faire un travail d'interprète, j'ai adoré ça et je prenais un risque, hein, évidemment, en intégrant Grégory Gadebois.
Elle est super la scène. Elle est super.
Et j'ai tout aimé dans ce dispositif.
Kevin, qui fait partie justement de ces acteurs, sera avec nous tout à l'heure. Kevin Vaquero, qui est que l'on voit notamment dans les Rencontres du Papotin.
Qui est journaliste au Papotin, qui est un chanteur exceptionnel
et qui est acteur dans le film.
Voilà, et qui est aussi dans le groupe Percujam et qui fait aussi une carrière de chanteur. Là, il commence seul.
On en parle avec lui tout à l'heure, mais la musique est très présente dans ce film. Une place pour Pierrot, ça sera mercredi au cinéma. De Philippe Kelly, spécialement composé, créé pour le film. Et puis il y a aussi, je l'ai dit, Julien Clerc, mais encore Yves Duteil ou Frank Sinatra. Fly me to the moon, let me play among the stars. Et le célèbre Libertango de la sorte Piazzolla. Réinterprété, dirons-nous, la bande originale de vos vies, Marie Gillin, on va commencer en 93. Because they rhythm it, oh rhythm it, nice rhythm it, split rhythm it, shit. Cause I'm somebody about bigger than more than them, not no old. Et il va falloir assumer le jeu de mots tout à l'heure d'Oldelaf. Elle est dans L'Appa, à ce moment-là, Leïla.
L'Appa, un film de Bertrand Tavernier. Comment déconstruire une image de comédienne après Mon père ce héros et accepter une proposition où vous incarnez une jeune fille qui est en compagnie de deux garçons. C'est tiré d'un fait divers.
Ouais, c'est une histoire vraie.
Ouais, qui assassine froidement... des personnes pour accumuler de l'argent et partir aux États-Unis.
C'est elle là pas finalement, elle les attire dans des pièges.
Oui oui, elle a un carnet, d'adresses assez rempli et donc il trouve comme idée de profiter de ce carnet d'adresses pour qu'elle appâte ces mecs
blindés.
Et au départ, ils n'ont pas imaginé que ça irait jusqu'à une issue dramatique.
Oui.
Mais ils sont pris par leur propre piège et par leur propre bêtise, d'une certaine façon. Mm-hmm. Naïveté.
C'est un film hyper fort. Encore, je sais pas, j'ai l'impression pas actuel, mais en tout cas, il y a quelque chose de ce désir de cette jeunesse d'avoir de l'argent de façon très rapide, de se la couler douce, d'être milliardaire, millionnaire. Il y a déjà ces préoccupations là dans les années 90.
Totalement. Puis cette idée aussi que, en fait, l'accomplissement, c'est d'être blindé,
c'est
parce que c'est ça la liberté.
Ouais.
Et donc,
c'est ce qu'il y a maintenant sur les réseaux sociaux avec ceux qui veulent être.
On est prêt à tout. À vendre tout et n'importe quoi, à se vendre, parce que voilà, on a cette image de
l'argent facile.
Et c'était déjà là dans les années 90, c'est une façon aussi d'un peu enlever la charge sur les jeunes générations. Ils sont obsédés par la même chose que nous, finalement.
Oui, complètement.
Hélène Médic, vous écoutiez en 93. Car foule sentimentale, on a soif d'idéal. Alain Souchon et sa foule sentimentale. Et que fait Hélène à ce moment-là?
Le conservatoire dans les années 90, début des années 90, qui vous mène à, j'imagine, à beaucoup de rencontres déjà dans ces années-là.
Alors l'histoire de foule sentimentale, en fait j'étais en dernière année au conservatoire de Paris et je tournais au cinéma pour la première fois avec Philippe Harel.
Mm-hmm.
Et en fait c'est drôle parce que cette chanson, je trouve qu'elle résonne aujourd'hui de façon, elle est d'une modernité folle. Et je me souviens de Philippe Harel, c'est un détail, une anecdote, mais il avait un bebop
Et en fait, wow, là, il va, là il va falloir un quart d'heure pour expliquer ce qu'est le bebop.
C'est extraordinaire, en fait, Bruno.
C'est quoi le bebop, tu
sais, sur ton tapis d'éveil, tu sais, c'est...
Il y a Emma aussi,
c'est l'ancêtre du téléphone portable.
C'est le premier.
Et en fait, il arrêtait la voiture régie pour aller se mettre près d'une borne et on regardait ce... Voilà, et en fait, cette opposition entre cette chanson de Souchon qui est tellement moderne et... Cette époque, c'est quand même le bebop.
Sur le consumérisme, ouais. Et en plus, avec ce bebop, où il fallait être près d'un poteau d'une borne dans la rue pour pouvoir téléphoner avec un sans fil.
Ouais,
vous en souvenez.
C'était ouf. C'était ouf. Mais juste avant ça, il y avait Radiocom 2000. C'était le truc énorme comme ça. Les producteurs de cinéma, de télévision, parce que ça coûtait extrêmement cher, avaient ce téléphone sans fil. Mais c'était un téléphone sans fil qui pesait 3 tonnes.
Avec un téléphone transportable.
C'est ça, sans fil, mais lourd. Dans les années 2011-2012, Marie-Gélin, vous écoutiez.
Sans raison, je pleure, à gros bouillons, je pleure, comme devant un oignon, je pleure. Arrêtons là. La la la.
Kali, elle m'a dit. Et Leïla, que faisait Marie à ce moment-là?
Elle faisait toutes nos envies avec Vincent Lindon. Qui est l'adaptation en fait d'un roman d'Emmanuel Carrère.
D'autres vies que la mienne.
Oui, c'est ça. Quel souvenir vous gardez de ce tournage?
Oh, c'était le tournage, c'était la continuité de la qualité de ce scénario, de l'émotion qu'il y avait dans le parcours de ce personnage. C'est ma rencontre avec Lioret, avec Vincent Lindon, mais j'étais aussi dans ma bulle, en fait. J'étais vraiment bien avec ce personnage. Et puis, j'ai choisi cette chanson parce que... Parce que Kali, c'est un peu... Je dirais que c'est un peu comme un ami ange gardien. On s'est rencontrés, je ne sais plus en quelle année, parce qu'en fait, je suis nulle dans les années, j'ai galéré à trouver des titres. Mais c'est vraiment quelqu'un que je... On se voit très rarement, mais quand on se... J'ai l'impression que c'est un peu un ange gardien. À chaque fois qu'il me voit, il me dit « Mais dis donc, tu devrais faire ça, t'as fait ça. » Je sais pas, c'est comme s'il m'insufflait une espèce d'énergie artistique à chaque fois que je le vois.
D'ailleurs, vous dites qu'au moment de ce film-là, votre désir de jouer a été renouvelé, que vous aviez été maman, que sans doute les priorités se déplacent dans l'existence.
Oui, et puis arrive ce scénario de ce rôle incroyable d'une jeune, ouais, d'une femme de 30 ans, mais qui a une complexité, puisqu'elle apprend qu'elle est condamnée, qu'elle va mourir, qui prépare son départ. Donc pour moi, c'était... Je me suis battue pour avoir ce rôle, parce qu'il n'y en a pas beaucoup des rôles comme ça.
Kali qui est sur scène, j'étais en train de rechercher ce qui remonte un spectacle. Ouais. Ouais, mais je vais les trouver, je vous les donnerai dans quelques instants. Retour à la musique et à celle que vous écoutiez, Eline Médic, toujours dans ces années 2011-2012. Adèle, pourquoi cette chanson? Qu'est-ce qu'elle évoque pour vous?
Alors cette chanson, c'est pour mon frère, 2011, c'est justement le moment où il fait sa première expérience d'acteur dans mon moyen-métrage. Puis Adèle, zinzin d'Adèle, moi. Non, vraiment, cette femme, mais un peu comme le personnage de Marie, je trouve que l'équilibre du masculin et du féminin, sa force et sa fragilité, c'est une interprète qui me bouleverse, bien au-delà de sa voix.
C'est pas de chance, c'est le nom de votre moyen-métrage que vous réalisez. Quelques années auparavant, vous y avez écrit un premier récit, Entre deux vies, où vous racontiez justement votre enfance auprès de votre grand frère, sur ce que ça a fait de vous aussi, parce que on parle toujours de la personne qui est autiste, on parle rarement, on l'a dit, des aidants, mais aussi de comment ça affecte et ça fait évoluer une personnalité. Chez vous, ouais. Ça a développé quoi?
Mais ça a constitué mon identité. Mmh. Je pense que j'ai fait un pas de côté comme lui, mais j'aime bien dire que mon frère était le seul endroit sécur de mon enfance. Mmh. C'est la seule personne qui m'a apporté beaucoup de sécurité, alors qu'il est très fragile.
Étonnant, ouais.
Parce qu'il est toujours à l'endroit de sa vérité, parce qu'il n'est jamais en posture, jamais dans la dissimulation. Et en fait, mon frère m'a beaucoup rassurée.
J'ai retrouvé le nom du spectacle de Kali avec Pierre-André de Vera, ça s'appelle Révolte et amour fou. Ça résume bien le bonhomme en même temps. Voilà, c'est ça.
On meurt demain. Dans toute la France. Cette phrase, on s'en branle. On meurt de maille.
Eh ouais, c'est ça, avec l'accent de Perpignan.
J'ai très mal fait.
Il est en tournée en toute la France d'octobre prochain jusqu'en avril 2026. Le film sort de mercredi au cinéma, Une place pour Pierrot, et Kevin Vaquero, vous faites partie des acteurs présents dans ce film, vous faites partie des stars, des rencontres du papotin, vous chantez aussi et vous êtes musicien. De quel instrument jouez-vous ? Vous chantez ou vous jouez ?
Je fais les deux.
D'accord, et de quel instrument jouez-vous ?
Je suis batteur, percussionniste, pianiste.
Très bien. Ah, les percussions sont présentes. C'est d'ailleurs dans le film, quand on imagine à 3h ou 4h du matin, le personnage Pierrot, joué par Grégory Gadebois, joue des percussions dans le salon.
C'est ça.
Il se pose pas la question de savoir s'il réveille ou pas. Il fait de la musique, tout simplement. Ça reste de la musique. Kevin, comment s'est passé le tournage du film avec Hélène ?
Au début, ça paraît un tout petit peu difficile, mais après, j'ai pris du plaisir pour jouer le rôle de Damien.
Vous avez pu improviser ou il fallait apprendre un texte ? Il fallait jouer exactement ce qu'elle vous demandait ?
Il fallait jouer le script et il fallait jouer aussi le scénario.
D'accord. Quand on reçoit un texte pour jouer une scène d'un film, est-ce qu'on lit tout ce qu'il y a avant et après pour bien comprendre l'histoire et à quel moment on arrive ?
Pour moi, l'histoire, c'est de jouer un rôle, c'est mon petit rôle, où j'ai joué dans une structure qui se trouve à la ferme de la Côte d'Opale.
Vous avez vu le film ?
Oui.
Qu'est-ce que vous en avez pensé ?
Je m'en pense que c'est très bien.
Et vous vous êtes aimé ?
Ouais, aimé.
Oui.
C'est très bien parce que ça montre justement tout ce qui se passe autour de l'autisme, tout ce qui se passe autour des personnes qui ont besoin d'avoir des personnes autour, qui ont besoin d'avoir une occupation déjà et d'avoir une vraie place dans la société et pas simplement être mis de côté.
Surtout les familles et les éducateurs et éducatrices.
Ouais, parce que ça, est-ce qu'on s'en rend compte au quotidien finalement de la charge pour les familles, pour les éducateurs ou les éducatrices ? Est-ce qu'on se pose cette question-là quand on a besoin d'eux, vu de votre côté ?
Pour moi, mon côté, c'est aimer les choses comme fait tout le monde.
C'est joli de le dire comme ça, c'est joli. Est-ce qu'il y a des moments dans la journée où vous avez plus besoin qu'on vous laisse tranquille ?
Surtout, ouais, qu'on me laisse isoler quelquefois.
Vous aimez ça ?
Ouais.
Et dans ces moments-là, vous rêvez, vous créez de la musique, vous imaginez des choses. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes seul ?
Je crée toujours des musiques, surtout au piano. J'ai jamais fait de solfège. Je l'ai appris par mon oreille absolue.
Wow. Ah ouais.
C'est-à-dire que là, vous pourriez nous chanter quelque chose ?
Kevin est un immense artiste.
Ouais. Vous pourriez nous chanter...
Bien sûr.
Alors, vous auriez envie de chanter quoi ?
Ce n'est rien.
Ben, je vous en prie.
Ce n'est rien. Tu le sais bien, le temps passe. Ce n'est rien. Tu sais bien. Elles s'en vont comme des bateaux. Et soudain, ça revient. Comme un bateau qu'il revient. Et soudain, il y a 1000 coquilles de noix sur ton chemin qui coulent et c'est très bien. Et ce n'est qu'une tourterelle qui viendra à tire d'aile en attente hors le buvet qui était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur belle et qui sent vers la faiblesse en ma partie à nos fers sous l'océan.
Bravo, merci. Avec un réarrangement des paroles, mais ça sonnait.
Ouais. Oui, ça sonnait.
Ça sonnait.
Hyper bien.
Évidemment.
Non, ce que je tiens à dire,
bravo.
Comme la différence, et surtout ces formes de différence ne sont pas forcément visibles.
Oui, parce qu'on met sous le nom d'autisme beaucoup trop de choses.
Voilà, vous avez compris que c'était un peu un problème. Et Kevin, c'est un artiste complet. Tous les artistes autistes de mon film ont fait un travail extraordinaire. Alors, on était en immersion avant de tourner pour qu'ils puissent vraiment se relier aux situations, à l'évolution du récit. Mais il n'y a pas d'improvisation. Ils sont
extraordinaire. Gad Boy, il disait, mais attends, c'est dingue, quoi. C'est les plus belles écoutes du monde, c'est les plus grands acteurs pour écouter. Ils sont ici et maintenant. Voilà. Et ce que je voulais dire aussi par rapport au parcours de Kevin, c'est que le trésor qu'il est, l'artiste qu'il est, c'est merveilleux qu'il arrive à prendre sa place, justement, grâce à ce programme, grâce à la visibilité qu'on peut lui donner. Mais il a eu aussi une errance. Ses parents sont là dans le studio, avec une médication pas adaptée, les mêmes problématiques. Mais de la même manière que Nicolas Demorand le raconte à travers son récit. Mmh. C'est les mêmes errances de diagnostic, les mêmes surmédications. Et au final, c'est aussi des personnes fragiles, mais qui en font des humains merveilleux. Je pense que la fragilité de Nicolas Demorand, elle participe aussi au grand journaliste qu'il est. De la même manière que Kevin est un grand artiste, même s'il est fragile.
Et qui pose des questions aussi dans les rencontres du Papotin.
Ouais.
Est-ce que vous avez une question à poser à Marie Gillin, par exemple? Vous l'avez vu dans le film?
J'ai vu dans le film.
Ouais.
Et tu n'es pas obligé de me poser une question si tu n'as pas envie.
Bien sûr.
Ça vous arrange, Marie, hein, qui ne pose pas la question.
Mais si, moi, j'aime, non,
je suis sûr qu'il a une question.
Mais peut-être, je ne sais pas, la question dont vous êtes le plus fier dans les rencontres du Papotin. Parce qu'il faut dire quand même que ce programme, il est exceptionnel. Ce face-à-face, il est très intense. Et surtout, il n'y a pas de langue de bois. Il y a une véritable sincérité. Et ça renouvelle considérablement le genre du journalisme, il faut le dire. Une question dont vous êtes... Ou d'un invité que...
Un invité.
Oui, un invité que vous avez aimé rencontrer.
J'avais aimé rencontrer Danny Boone.
Oui.
C'est mon grand souvenir que j'ai eu, dont on avait invité cet artiste dans les rencontres du Papotin.
Et il sera avec nous ici lundi. Et donc vous n'avez toujours pas de questions à... Parce que moi je veux pas... Ah si, vous avez une question, ok.
Pour moi, les rencontres du Papotin... c'est grâce à cette émission que je suis connu à la télé,
oui.
Et qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont connu dans la rue, et ils étaient fiers de moi et j'en suis fier, et pour mes parents, je suis une star.
Mais moi j'avais une question pour Kevin, est-ce que tu penses que ça serait possible que je vienne un jour au Papotin?
Bien sûr.
Ça me ferait plaisir.
Avec grand honneur.
Je crois que c'est pas lui qui décide.
Hop.
Non, mais déjà, est-ce qu'il...
Non, c'est Marie.
Ah bah oui.
C'est Marie qui décide déjà.
Oui.
Elle s'invite. Mais ouais, moi, je trouve ça classe. Ouais. Ouais, absolument. Absolument.
Moi, j'adorerais que Marie...
Merci, Kevin Baccaro, d'être venu. Merci, madame, de l'avoir accompagné. Je précise et je salue votre maman, puisque c'est vrai que le sujet aussi du film est autour des familles, autour des aidants, et que finalement le film est beaucoup plus sur la maman de Kevin que sur Kevin. Ce film sortant ce mercredi au cinéma. Emma,
oui,
Emma, rend un hommage, c'est là.
Bonjour tout le monde. Oui, tous les jours dans cette émission, je rends un hommage. Et aujourd'hui, je voudrais rendre hommage à la chose la plus importante sur cette terre et dans cette vie. Bien sûr, c'est la famille. Eh oui. Alors, ah oui, pardon, juste, j'explique peut-être que c'est pour Oldelaf. En gros, tu te souviens, les gens qui t'ont trouvé dans la forêt, qui t'ont élevé dans un cirque comme l'un des leurs? Eh bien, c'est ça, la famille. Évidemment, il y a des familles beaucoup plus stables que d'autres. Hein. D'ailleurs, c'est pas parce qu'on a un nom de famille qui fait bon genre que la famille est plus stable. C'est souvent l'inverse. C'est pas le conseiller du rayon soude de Monsieur Bricolage de la Chapelle Basse-Mère qui s'est occupé d'un certain Monsieur Dupont de Ligonnès qui nous dira le contraire. Moi, j'ai une famille très stable, sachez-le. Enfin, du moins, j'ai trouvé une famille très stable avec le temps. Je vous en ai jamais parlé. Ah oui, non, c'est vrai qu'ils aiment pas trop qu'on en parle en public. Alors, ça s'appelle la Fraternité du Croissant de Lune. Voilà, on est une petite cinquantaine, on habite dans un étable en Seine-et-Marne, vers la Ferté-sous-Jouarre, je ne sais pas si vous voyez.
Ouais.
Et nous y vivons en paix grâce à notre cher porteur de lune, Christophe, qui pour info est un véritable descendant de Jésus-Christ.
Bon,
certes, il est roux, mais bon, ses gènes sont en réalité croisés avec ceux d'Ed Sheeran. Et c'est pour ça qu'il joue très bien de la guitare. Bise, mon Chris. Et bon, voilà, je veux pas me la raconter, mais je crois qu'il m'aime bien. Oui, enfin, en tout cas, c'est parce que je me dis ça, parce que souvent, il vient vérifier que je dors bien le soir. Dans le dortoir, il reste un petit peu dans le lit, il m'accompagne, waouh. Quel homme. Et c'est d'ailleurs pour ça, Nagui, que en fait, moi, mes chèques de paye, ils sont directement adressés à la grande église de la Fraternité du Croissant de Lune. Enfin d'ailleurs, exactement, c'est plutôt SASU, grande église de la Fraternité du Croissant de Lune. Mais attendez, moi, c'est super, hein, parce qu'en contrepartie, je suis logée et blanchie. Littéralement, je veux dire, parce que sa sainteté a tenu à ce que nous, les femmes de la famille, les lunettes, on se fasse toutes blanchir l'anus. Je rigole, oh my god, no offense. Pour ma vraie famille, évidemment, elle est formidable. J'aurais pas pu rêver d'avoir une plus belle famille. C'est vrai que des fois, on a des différends. On se dit tout le temps que c'est mieux chez les autres, qu'il y a moins de conflits. Après, nous, dans notre famille, niveau conflit familial, on est pas mal. Je vous rappelle que mon grand-père est turc. turque et que ma grand-mère est arménienne. Voilà, ils se sont rencontrés pendant le genocide MDR. Peut-être, on ne sait pas, un camp plein massacre. Mon grand-père, à un moment, il a fait « Poste, excuse-moi mademoiselle, je te dérange, mais vous êtes vraiment charmante. Ah ouais, une vraie bombe. Ah, ah, ah. Et je sais de quoi je parle, c'est moi qui rasé tout le pâté de raisin. Oh, » Mais une famille, c'est ça, c'est l'amour inconditionnel, c'est l'amour malgré tout, l'amour malgré la guerre, c'est la vraie fraternité, pardon. C'est pas un vieux qui te demande de lui montrer ton croissant de lune. Moi, mes parents, ils m'ont toujours dit que c'était sacré, l'amour d'une famille. C'est vrai, c'est sacré d'avoir des gens sur lesquels on peut compter chaque jour de sa vie, et même quand ils sont plus là. Et comme un hommage aussi, c'est sacré, en voilà un pour eux. Merci de m'avoir
écouté. Merci.
Emma Beaujean est sur scène tous les vendredis. Vous la retrouvez à 21h au Théâtre des Mathurins.
Merci Emma. Tanguy Basuro, de quoi vas-tu nous parler ?
Je parlais, Nagui, du Café Gate, la vidéo qui fait trembler France Inter. Plus jamais je ne donne des rendez-vous à des gens de gauche, moi. Déjà que ça arrivait peu, mais...
Marie-Gillin et Hélène Médic sont nos invités. Mercredi sortira le film qu'on vous encourage d'aller voir. Une place pour Pierrot. Avec Leïla Kadogoudadi, Emma Beaujean, Camille Lavam, Bruno Péquier, Catherine avec Marie-Gillin, Oldelas, Tanguy Bassureau, oui. Nos invités, oui, Marie-Gillin et Hélène Médic.
France Inter, la bande originale. Leïla Kadour et Nagui.
Une place pour Pierrot. Pierrot joué par Grégory Gadebois. Sa sœur Marie-Gillin veut le sortir de l'enfer médical, c'est-à-dire des maisons qui sont là pour faire de l'argent, qui sont pas là pour soigner, finalement. On a l'impression que c'est quelque... voilà. C'est un peu, un peu médicalisé, mais on n'a pas le sentiment que ce soit vraiment l'idéal pour certains patients.
Je prends quelques précautions, parce que c'est pas du tout un film politique par rapport à ça. Pas pour faire de l'argent, mais c'est plus l'errance de diagnostic qui provoque des surmédications. Mais comme c'est trop généralisé, en fait, dans notre pays, dans on plein de domaines...
On a l'impression que, simplement, ils shootent par moments des patients en disant, comme ça, ils vont arrêter de nous embêter.
Il y a un petit peu ça, pour voilà. être tranquille, comme elle le dit, mais comme c'est le cas pour des personnes en fin de vie, dans des EHPAD, qui subissent des surmédications aussi. On va dire que c'est un procédé, hélas, dans l'accompagnement, qui est un peu généralisé,
mais vous
bien
avez
qu'il y ait des endroits formidables aussi.
Voilà, c'est ça. Il ne faut pas oublier ceux qui font extrêmement bien leur travail, avec dévotion. Et cette dévotion est au centre du film, c'est-à-dire comment une sœur va s'occuper de son frère, qui est en rupture de communication avec l'extérieur, avec la société, comment elle va s'en occuper au mépris de sa propre vie professionnelle, de sa propre vie privée, familiale, de son propre rôle de maman. Elle peut passer à côté aussi de l'éducation de sa fille juste pour être focus et aider, même si c'est un temps, mais on ne sait pas combien de temps va durer ce moment, aider son frère.
Oui, ça pose la question de jusqu'où on peut aller par amour pour accompagner un être différent et à quel point c'est important de se créer de l'espace parce que sinon on ne peut pas apporter ce genre de combat si on n'est pas au bon endroit dans sa vie. Il faut se rencontrer, comme disait Hélène.
Alors il y a plusieurs images dans le rôle que vous interprétez. Vous êtes à la fois avocate et on a un sentiment d'injustice par rapport à tout ce qui peut se passer vis-à-vis de ces malades. Elle est, on imagine dans des salles de tribunal en train de déclamer des textes, donc en train de communiquer, de convaincre les autres, et c'est la difficulté aussi de Pierrot. Lui, il a du mal à exprimer, il a du mal à... Donc vous êtes vraiment à l'opposé.
Oui, elle est lettrée dans le verbal, dans son métier. Et elle a un langage avec Pierrot qui... j'observais Kevin, qui était là avec ses parents et sa maman, et c'est exactement le même genre de relation. C'est une relation qui est sensorielle, où il y a comme une soutenance, en fait. Et Camille et Pierrot, ils ont ce langage organique qui, à mon avis, est un endroit qu'ils ont tissé depuis l'enfance, qui les apaise, qui les désactive, qui les relie.
Ces maisons qui n'existent pas assez, on en parle beaucoup, on en a parlé avec Hélène de Fougerolles, une de vos amies, avec vous aussi, la maison de Vincent. On en parle un tout petit peu quand même de ce que vous avez réussi avec cette association.
Ouais, je vous écoute, Nagui.
Ah bah non, c'est vous qui nous racontez.
C'est quoi les maisons de Vincent?
Déjà,
voilà.
Le combat pour y arriver aussi.
C'est ça.
Oui, alors, donc les maisons de Vincent, ce sont des maisons à taille humaine, dédiées à l'accompagnement des personnes adultes autistes, quel que soit le spectre et les troubles.
Déjà, il faut que le lieu soit chaleureux, parce que vous dites des maisons de taille humaine, c'est ça, il faut qu'il y ait de la chaleur humaine.
Exactement.
Chaleur humaine, ça veut dire maximum combien de...
Alors là, dans les maisons, on est entre 6 et 7 résidents en internat, mais on fait de l'accueil de jour aussi. Donc au final, on est 10 par maison.
Et ça a commencé il y a longtemps ?
J'ai créé la première maison en 2021. Une autre maison a ouvert il y a un an, dans le Luberon. Et une troisième maison va ouvrir dans les Landes. Voilà. C'est un projet... Hélas, je suis une toute petite joueuse, quoi. Je veux dire, j'avais besoin, en tant que citoyenne, d'aller au bout de ça. Peut-être parce que je me dis, quand je partirai, quand je quitterai cette terre, voilà, je trouve du sens à un tout petit endroit de créer des lieux qui, à mon avis, dans l'accompagnement... on va dire, participe à une solution. Mais c'est trop petit. Je veux dire, il y a tellement de demandes. Aujourd'hui, je traverse plus cette étape. C'est-à-dire qu'il y a tellement de demandes que je réponds absolument pas à la nécessité.
Voilà. Non, mais d'autres doivent prendre le relais, vous avez raison. Et ça doit donner l'idée, en tout cas, de ce qui est possible à faire. Je sais qu'il y a Samuel Le Bihan aussi qui vous soutient, autant que Hélène de Fougerolles. On en reparle tout à l'heure des maisons de Vincent, mais voici d'abord Tanguy Pastureau.
Ah là là, mais quel week-end pour France Inter. Même quand il se passe rien à l'antenne, cette radio fait le buzz. Vous avez vu cette vidéo, mais j'espère qu'on paye pas de communicants, parce que ce serait des factures à régler pour rien. Vous mettez juste Thomas Legrand et Patrick Cohen dans un resto. Le premier qui parle aussi fort que s'il était dans ses toilettes et qu'il appelait sa femme parce qu'il n'y a plus de papier. Et c'est ok, c'est joué. Non mais CNews a fait le week-end entier là-dessus. C'était presque du X tellement ils étaient à deux doigts de jouir en direct. Rien que de les voir, je me suis senti sale. Je me suis douché 4 fois ensuite. Mais attendez, je me confie, j'ai pris une claque. Non, parce que je me disais, Legrand, Cohen, ce sont des journalistes, ouais, j'étais pas impressionné. Mais là, la vidéo, on les voit, les montre en train de discuter avec 2 socialistes. C'est-à-dire qu'il en reste 4 en tout en France, et eux arrivent à caler la moitié de l'équipe pour le goûter. Non mais c'est très fort. C'est-à-dire que les cochons trouvent des truffes, les journalistes chez nous trouvent des socialistes. Hein, vous en planquez un dans le faux plafond de l'open space, vous lâchez la rédac, en 30 secondes, ils le localisent. Les socialistes aussi sont forts. Ce sont des génies. La prochaine version d'Aladin, il y a un mec avec une rose qui va sortir de la lampe. Parce que plus personne ne vote pour eux, d'accord ? La dernière présidentielle, ça a fait moins de 2%. Bon, la candidate, ok, c'était Anne Hidalgo, mais quand même. Elle avait été battue par Jean Lassalle, le berger défoncé. Et s'il avait été remplacé juste avant le scrutin par une de ses brebis, la brebis faisait plus que le PS. Et là, alors que le PS est finito, hein, ils sont en train de voir s'ils vont pas les coller au prochain gouvernement. C'est que Macron, il peut bosser avec Retailleau comme avec Olivier Faure. Il est plus souple que le chat de ma sœur quand il fait sa toilette. Du moment que lui reste, il s'en tape. Vous mettez Lionel Jospin, Laurie et 4 stagiaires de 3e, il dit ok. Hein, ils sont forts. Richard Ferrand, président du Conseil constitutionnel, Najat Vallaud-Belkacem à la Cour des comptes. Moins il y a socialistes dans la vraie vie, plus on les retrouve au sommet de l'État. Ils sont magiques. Ah mais c'est l'école de la seconde chance. Une sorte d'IKEA de Dubaï. Hein, dans le sens où on te met dans un placard, mais en or. Alors bien sûr, une vidéo volée, bon, la méthode est un peu cracra. Hein, je veux dire, quels que soient les médias qui font ça, moi, je trouve qu'un adversaire, ça s'affronte face à face. Hein, c'est mon côté MMA, quoi. Pas les assurances, les points dans la gueule. Hein, et en même temps, en 2025, tout le monde filme. Donc faites attention, enfin. Mais pourquoi pensez-vous que j'ai arrêté de manger du beurre doux dans les restos ? Mais parce que j'avais peur qu'on me filme, que la vidéo se retrouve sur l'ordinateur du préfet du Finistère et que la région Bretagne lance une fatwa sur moi. J'ai pas envie de finir dans la cave de Madame Loïc, tandis qu'elle me tartine le corps de Queen Amag et je finis par crever, les pores de ma peau étant obstrués par la barre de micelle. Et puis, deuxième conseil, je sais que c'est très parisien de hurler partout au café, dans la rue, dans son téléphone. Mais enfin, jurisprudence, Carla Bruni, feulée, murmurée, surtout si c'est pour dire du mal de Rachida Dati, mais cette dame est dangereuse. C'est la calamity Jane du 7e arrondissement, elle a moins de filtre qu'une gitane maïs en 72. Si dans un coin de rue, elle t'attaque, c'est pas Glucksmann qui va venir te sauver, lui, quand il annonce qu'ils rompent l'alliance avec les filles, il tremble. Une fois, il a l'air décidé sur un thème de société, dans la foulée, il est voir son psy en disant « ça me ressemble pas ». Mais vous connaissez l'expression « you don't fuck with Dati ». Cette femme a fait Planète Rap sur Skyrock. D'accord, c'est si t'es pas un gangsta, tu ne fais pas Planète Rap. Hein, elle, c'est Fort Pack. D'accord, 2 fois Tupac. Mais moi, je tiens à la vie. Hein, j'ai pas le choix, j'ai un crédit immobilier qui court sur 12 ans. Donc, je tiens à me dissocier de tout ça. Madame Dati, s'il le faut, j'embrasserai dans la pénombre la bague que vous portez. Pendant que vous me direz, c'est bien, maintenant, livre-moi, Patrick Cohen. J'imite très mal le mafieux. Hein, voilà. Pourtant, j'habite les Hauts-de-Seine. Je dis ça alors que techniquement, Rachida Dati, là, peut tomber tomber en même temps que Bayrou et les feuilles des arbres. Mais c'est la seule qui, à chaque fois, garde son poste parce que personne n'ose la sortir. C'est un Bernard Lhermitte en bien coiffé, quoi. Ils envoient des négociateurs du raid, puis elle hurle et il fuit, quoi. Alors attention, tout ne va pas si mal à Radio France. Non, il y a des perspectives, voilà. Mais pas pour moi. Vendredi, j'ai lu dans le Figaro une interview de Sybille Veil, vous savez, la PDG du groupe. Titre de l'article, Radio France doit devenir plus attractive pour les jeunes que TikTok. Voilà, c'est là que j'ai réalisé que je ne faisais pas partie du projet.
Non,
adieu l'équipe. Ah bah, jamais j'arriverai à m'adapter. Je veux dire, moi, je suis à l'ancienne, j'ai un texte, je suis assis comme un vieux. On dirait que je vais crever. À côté de moi, il y a Oldelave, le troubadour star du 20e siècle. Et puis moi, je ne danse pas. Vous savez, sur TikTok, on danse. Oui, un peu, on bouge, quoi. Moi, si je bouge, c'est ridicule. Regardez, I like to move it. Même mes chansons pour danser sont vieilles. M-C-A-R, right, in the heat of the night. Mais qu'est-ce que vous voulez faire avec ça, quoi? Même en tant qu'humoriste, pour être pris aujourd'hui sur Inter, il faut faire des zéniths. Tu vois, c'est pour ça, Bruno Péquy, je pense que c'est une erreur, quoi. Mais je me sens tellement dépassé. En plus, Madame Veil l'a annoncé, Radio France lance deux radios numériques. Mon petit France Inter pour les 6-11 ans et mon tout petit France Inter pour les 3-6 ans. Et ben voilà, ben, là, je suis pas non plus sur le projet. Ben, j'attends le lancement de mon tout petit France Inter, la radio pour les fœtus, hein, ou mon France Inter sous la couette qui s'adressera aux couples en train de concevoir les futurs auditeurs. Hein, on ira chez eux, enfin, le Delave jouera du Marvin Gaye, pendant que je dirai à la dame si ça peut vous aider, fermez les yeux, imaginez que c'est moi. Enfin, bon, voilà, allez, vive France Inter quand même. Je vous laisse, hein, je dois déplacer le distributeur de café pour voir si derrière, il n'y a pas un socialiste.
Merci Tanguy Passiot.
Et Tanguy, on te retrouve sur scène le 18 octobre à Mennecy, c'est dans l'Essonne.
Une place pour Pierrot, déglutit. Une place pour Pierrot, le film d'Hélène Médig, porté superbement joué par Gregory Gadebois et Marie Gillin. Marie étant notre invitée aussi. Il y a une facette dans le film que on n'a pas évoquée, mais qui vous est chère aussi, c'est l'écologie, l'agriculture et l'écologie. Ça aussi, c'est l'un de vos combats,
Hélène. Oui, mais j'avais envie... En tout cas, de créer ce décor en lien aussi beaucoup avec le personnage de Pierrot, qui, en opposant la ville à cette nature très sauvage de la Côte d'Opale, effectivement, la nature est toujours la bonne mère pour retrouver du sens, en fait, ses actions et dans son autonomie.
Et c'est la première à nous amener une bonne santé, cette agriculture. Vous défendez l'agriculture saine, sans pesticides.
Absolument, sans chimie de synthèse.
Et sans les perturbateurs endocriniens dont on est toutes et tous victimes.
Oui, sans aller jusqu'à la métaphore, effectivement, de la surmédication de Pierrot, qui n'est pas tout le temps adaptée. Encore une fois, je ne suis pas contre la chimie, parce que on m'a envoyé ce message 2-3 fois. Il ne s'agit pas d'être contre la chimie.
Non, mais contre les excès.
Exactement.
Et c'est pareil pour les excès sur l'agriculture, sur l'élevage, tout ça.
Surtout que ça ne fonctionne plus.
Tous les excès sont mauvais.
Voilà. C'est que nos sols sont morts à 60%. Ouais. Donc, de toute façon, cette chimie de synthèse n'est plus absorbée par les sols. Mmh. Donc, ça ne fait que du mal, soit aux agriculteurs... ou en général...
Un film donc qui fait du bien à tous les niveaux. Ça s'appelle Une place pour Pierrot et c'est au cinéma ce mercredi. D'autres événements culturels, Leïla.
On cherche un adolescent, un génie qui est entré dans l'histoire hier.
Celui qui a été canonisé ?
Absolument. Bonne réponse de Bruno Péquy. La jeunesse répond à la jeunesse. Ouais. Carlo Acutis, canonisé hier. Première canonisation dans le cadre du pontificat de notre nouveau pape. Il est surnommé le geek de Dieu. C'est quand même le premier saint qui est né après moi. Je trouve que c'est...
Je rappelle, c'est à partir de maintenant, c'est ta date de naissance qui fera office.
J'espère bien que c'est un peu votre étalon à vous tous.
Bien sûr.
Carlo Acutis, pour l'histoire, est mort en effet à 15 ans. Il est mort d'une leucémie foudroyante, c'était en 2006. Et près de 20 ans après sa mort, son corps, qui est exposé en Italie, attire les foules. Son corps est particulièrement bien conservé. Si vous avez eu l'occasion de voir des photos dans la presse, c'est vrai qu'on voit une sorte d'adolescent un peu joufflu, qui est allongé, on a l'impression qu'il dort. C'est très très troublant. Son corps est tellement bien conservé que ce sont les pratiques de conservation qui questionnent. La mère a déclaré que le corps avait été examiné en 2019 dans le cadre d'un examen officiel du Vatican, et que ce corps n'avait pas été altéré, c'est-à-dire que les organes vraisemblablement étaient là, le poids était identique, toujours cette chevelure noire, seule sa peau était un peu plus foncée, ce qui est assez logique dans le processus d'altération, mais la dépouille telle qu'elle est exposée ne présente pas de coloration, au point que certains spécialistes imaginent qu'il a été recouvert d'une couche de cire ou d'une couche de silicone pour éviter la coloration et pour donner à voir un adolescent qui a l'air vraiment de faire une petite sieste. Pour le Vatican, pas d'explication et pas d'informations concernant les pratiques de conservation. Pour eux, c'est simplement le signe d'une intervention divine. Les corps de saints et les corps de béatifiés échappent, eux, à la décomposition, contrairement à nous, simples mortels. Rappelons que Carlo Acutis aurait deux miracles à son actif, et qu'il est passé par le bureau de validation des miracles, parce qu'il y a quand même une entité au sein du Vatican qui est là pour vérifier.
Il y a un bureau des miracles.
Il y a un bureau, oui, il y a eu un livre, c'était un film avec Vincent Lindon. C'était pas Gianoli qui avait fait ce film-là?
Oui, absolument.
Ouais, c'est ça. Il y a une sorte de bureau où ils enquêtent pour déterminer
si c'est vrai ou faux,
s'il y a des témoins, pas des témoins. Voilà, ils font cette enquête-là.
Validation des miracles.
La validation des miracles, tout ça pour vous,
job.
Pour vous demander, ouais, c'est ça, c'est un job ce qui peut être sympa. Ouais. Tout ça pour vous demander...
Quel est le dernier miracle?
Ouais, c'est ça. En quoi vous avez la foi? En quoi vous croyez?
C'est Marie. Allez Marie, tu peux répondre.
C'est 12h21.
Non, mais ça peut être... c'est pas du tout forcément...
Non, Marie, moi je commence, la spiritualité est partout dans ma vie, vraiment.
Et à quel niveau? Comment elle se manifeste? Comment vous y référez?
Déjà dans une pratique quotidienne, physique. Et puis,
c'est quoi une pratique physique?
Pratique beaucoup le yoga.
Ah,
voilà, je trouve que c'est en toute humilité le meilleur exemple du travail de la détermination et du lâcher prise. Mmh. Je trouve que ça enseigne beaucoup. Et puis la méditation aussi, moi je pense que tout est spirituel en fait quand on a envie d'être attentif.
Et vous Marie?
Moi c'est de façon peut-être plus... Enfin, différente. Je crois que j'ai toujours un peu l'espoir. Et d'ailleurs, mon entourage, souvent, m'appelle un peu Sainte Marie, parce que c'est vrai que je perçois souvent les relations par une forme d'empathie. Et j'ai du mal à vraiment condamner l'autre, en fait. J'ai toujours tendance à essayer de trouver des explications à tous les actes. Alors, des fois, ça peut me jouer des tours aussi. Mais oui, moi, j'ai comme une...
Une
foi en l'humain, puis une foi en... Peut-être aussi aux bonnes âmes, aux bonnes étoiles.
Ouais. C'est pour ça qu'on a demandé à Daniel de ne pas être là aujourd'hui.
Oui, il n'est pas là du coup.
Non, il a dit, mais c'est ou Marie ou moi, donc on a dit, ça sera Marie.
Même absent, il se prend des vannes, lui.
C'est vrai que le pauvre, il n'échappe à rien. Autre question, si je vous dis, 16 millions d'euros récoltés, je parle de quoi?
Ah, le The Event.
Absolument. Le plus gros événement caritatif en ligne. C'était la 9e édition de The Event tout au long de ce week-end. Une quarantaine de streamers qui relèvent des défis et qui suscitent donc les dons en ligne. Avec beaucoup, beaucoup de monde qui a participé à faire des actions, des karaokés, des défis divers et variés. Et cette somme colossale, 16 millions d'euros le temps d'un week-end, sera reversée à plusieurs associations. Ça sera divisé, la Ligue contre le cancer, le Rire Médecin, Sourire à la vie, qui est une association aussi qui s'occupe des enfants qui sont atteints de cancer, et puis aussi l'Association française des aidants. Et je me suis dit que c'était quand même pas mal de le mentionner à l'occasion de votre venue, Hélène Médig. Est-ce que ça vous laisse, vos actions et les vôtres, Marie, vous laissent du temps pour vous investir dans d'autres associations, dans d'autres projets, parce que ça prend un temps fou? J'imagine.
Mais non, vraiment. Ouais. En plus, moi, on est une toute petite association, donc même si ça semble de l'extérieur important, les lieux créés au siège, je n'ai pas la trésorerie pour engager quelqu'un qui va faire mon travail.
D'accord.
Donc, voilà, on a besoin de soutien. Mais c'est vrai qu'à travers le film Une place pour Pierrot, je serais très heureuse, en fait, de mettre en lumière d'autres associations autour des aidants. Et on espère être encore en salle pour la journée des aidants qui a lieu le 6 octobre et qui est une journée en fait qui a été créée récemment. Et je trouve ça très très précieux.
On les compte le nombre de personnes en France qui sont des aidants?
Non, on l'a pas compté, mais quand vous imaginez
que... Parce que c'est pour chaque patient, pour chaque malade, c'est x4, x5, c'est toute la famille.
Et puis même chacun autour de la table, on va tous un jour être les dents de quelqu'un. Ouais. Donc au final, je pense qu'on est très nombreux.
C'est ça. Plus que j'ai envie de dire peut-être plus que de malades ou pas assez par
Absolument.
Rapport à ce dont les malades ont besoin.
Il me semble que j'avais vu un chiffre, une estimation entre 8 et 11 millions de proches aidants en France actuellement.
Alors qu'ils sont comptabilisés, je pense.
J'ai le vrai chiffre, c'est pas ça du tout.
Ceux qui se sont retirés de leur vie professionnelle pour consacrer leur vie en étant aidant. Mais après, il y a ceux qui le sont en essayant de
faire les deux.
Je crois que les 8-9 millions, ce sont les aidants à temps plein, sur des longues période. Plus de 9 au final, millions. On est bien plus nombreux.
Ouais. Une personne sur 5 serait aidante, au moins.
Mais est-ce que le film n'est pas spécialement sur l'autisme, mais sur plutôt les gens différents, quelle que soit la différence, que ce soit lorsqu'on est en fin de vie, lorsqu'on est handicapé, lorsqu'on est atteint d'autisme, c'est juste ça. Et que se passe-t-il autour de la différence quand la société, quand on n'est pas dans la norme et quand la société vous rejette d'ailleurs? Quand on dit anormal, anormal, c'est juste dire ne pas être dans la norme. C'est pas forcément.
Exactement. Moi, je pense qu'on est tous différents. Et demain, Nagui, si vous rentrez en dépression, vous allez éprouver des limites et vous allez être exactement dans l'expérience des mêmes situations que Pierrot ou des autres personnages. Moi, j'ai voulu vraiment, pas de façon utopique, mais faire un film sur le lien, sur ce qui nous relie au-delà du lien. Du personnage de Marie et de Pierrot, avec tous ces personnages secondaires qui racontent aussi la famille qu'on se choisit, parce qu'au final, tous les personnages de mon film sont en quête de sens, en quête de transformation.
En tout cas, c'est réussi. Et puis Marie, vous avez réussi justement à rendre ces aidants humains identifiables en disant sans les juger. Ils ont le droit, ils sont admirables parce qu'ils aident, mais ils ont aussi le droit de péter un câble à un moment donné en disant j'en peux plus et puis j'ai envie de m'occuper de moi. Et ça lui fait peut-être se poser encore plus des questions sur son rapport aux autres. Personnel.
Oui, c'est un mélange de force et de fragilité. Et je pense que quand on accompagne des gens qui sont différents, mais ça peut être aussi des adolescents qui ont des problèmes de santé mentale,
dont la dépression, c'est ça,
En tant que parent, c'est un peu le même concept, c'est-à-dire qu'on est aspiré, on peut aussi faire face à des errances de diagnostic, ne pas trouver les
être perdu, ne pas savoir quoi faire,
être perdu et ça prend toute la place dans votre vie et souvent ce qui anime c'est l'amour, mais c'est aussi l'inquiétude et le film raconte aussi ce fameux moment de délivrance où, parce que Camille va aussi accepter les mains qui lui sont tendues, elle va enfin être capable de voir les choses, les belles choses qu'on lui propose. C'est un moment de délivrance aussi, où elle peut se déposer enfin et vivre sa vie et où ce lien devient plus doux.
Et c'est réussi, et c'est superbement bien interprété. Marie Gillin, Grégory Gadebois, je le rappelle, avec Patrick Mille, Mathilde Labarthe, Vincent Elbaz, François-Vincent Telly, Marianne Bassler, Atman Khelif, Vincent Winterhalter et Nicolas Briançon, entre autres. Le film sort ce mercredi.